le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, icimaintenant.info aussi pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine en ce samedi. Avec nous ce soir, des invités pour nous parler d'une pratique, on va dire originale, puisque moi-même je ne la connaissais pas, non pas que je connais tout, mais en l'occurrence pour nous tous, moi y compris bien entendu, l'occasion de découvrir déjà des invités. Nous accueillons Philippe Antel et Bénédicte Odéou. Bonjour à vous deux.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Oh, petite timide,
ah,
Bénédicte.
Non, pas.
Tout
non,
de suite,
non,
ça change.
Juste un peu de douceur.
Très bien. Philippe, Bénédicte, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'une pratique particulière qu'on appelle la méthode corps-miroir. Donc, avant de nous lancer dans ce qu'est cette pratique à proprement parler, on va faire connaissance, déjà nous trois, et puis avec les auditeurs, et je vais vous demander de vous présenter. Quelle peut-être fonction ou image vous pouvez donner de vous-même aux auditeurs?
Ok, alors, écoute, donc je suis français, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure avant l'antenne, j'habite en ex-Allemagne de l'Est, à Dresde depuis 1991, à part un court passage en France, près d'Angers, avec des amis musiciens en 2003-2004. Et donc je fonctionne comme guérisseur et je suis enseignant de technique de guérison, de la technique du corps miroir et aussi donc de l'atelier de la vue. Les bases philosophiques derrière sont les mêmes, seulement bon, l'animal est un peu différent. Voilà.
L'animal est un peu différent.
Oui, c'est-à-dire la manière dont le séminaire, les deux séminaires se développent, c'est une manière un peu différente parce que l'atelier de la vue, comme son nom l'indique, est fait pour les personnes qui ont des symptômes de vision, mais aussi pour avoir une vision claire à l'intérieur, parce que la manière dont, si tu veux, la base philosophique derrière ces deux séminaires, c'est que tout commence dans notre conscience. Et donc que pour avoir un corps physique en bonne santé, pour avoir une vie qui marche parfaitement, eh bien c'est important d'avoir une vision claire à l'intérieur, dans la conscience. Voilà. Et pour les personnes qui ont des symptômes de vue, donc il y a quelques blocages au niveau du mental et on aborde donc ce séminaire de manière basique en développant les aspects techniques et physiques de la vue et ensuite les aspects émotionnels, mentaux et spirituels de manière à ouvrir de plus en plus les personnes à expanser leur conscience et à les amener donc à la possibilité de voir clair sans lunettes ou sans lentilles de contact.
D'accord. Alors Philippe, avant de développer avec Bénédicte juste après, tu me faisais part, en dehors de cette antenne, que tu avais commencé en tant que cheminot.
Oui, donc mon père était conducteur de train, mon grand-père était conducteur de train, mon arrière-grand-père aussi, et puis d'autres membres de la famille étaient cheminots. Et quand je suis sorti de l'école à 18 ans sans mon bac, que j'avais passé deux fois et raté deux fois à l'oral de rattrapage, quand je suis rentré de l'armée, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, puisque j'avais déjà été aide-conducteur pendant les vacances, c'était un métier qui me plaisait, donc j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai fait la formation, je suis devenu conducteur j'ai fait ça pendant 13 ans, donc jusqu'en 1987.
Alors, qu'est-ce que je sais, par la suite, tu as fait d'autres, tu as créé ta boîte, tu es parti en Belgique?
Je suis parti en Belgique où j'avais acheté un café là-bas avec un autre associé, bon notre entente n'était pas parfaite. Au bout de 8 mois, je suis parti et j'avais plus l'argent parce que j'avais tout laissé là-bas et puis j'avais plus l'argent pour payer l'avocat pour récupérer mon argent. Donc, mes parents m'ont prêté de l'argent et j'ai créé une SARL pour vendre du papier recyclé. J'ai fait ça pendant 3 ans et comme je te l'ai dit, bon, c'était très dur financièrement. Mais à ce moment-là, donc, je faisais des salons de médecine douce pour vendre ce papier. Et là, donc, un jour en Belgique, devant moi, il y avait un stand où ils faisaient des choses où je me suis senti attiré. Et puis, donc, c'était. Des, des enseignants du corps miroir. Et il y avait Martin Brofman qui était là, donc le créateur de ces deux méthodes, qui donnait une conférence. Et trois jours après, donc, je me suis retrouvé dans un de ces stages. Et là, pour la première fois, j'ai remarqué un net changement dans ma vue physique parce que bon, j'étais myope depuis l'âge de 6 ans. On avait découvert ça à l'école. J'étais myope de l'œil gauche et astigmate de l'œil droit. Et bon, tu sais comment c'est, dans la réalité physique, on ne voit qu'une seule solution à donner aux gens qui ont des problèmes de vue, c'est de leur mettre des lunettes. Et c'est un peu comme des béquilles, ok, mais les gens, quand ils reviennent l'année suivante voir l'ophtalmo, et la vue, souvent c'est aggravé, mais on leur donne toujours la même solution, les lunettes. Donc ça paraît un peu surprenant de toujours donner la même solution à un problème qui s'aggrave. Donc là, l'idée, c'est à travers une vision claire retrouvée dans la conscience, c'est d'amener la vue claire donc au niveau physique. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi dans ma vie.
Alors j'ai quelques questions, ouais. Puisque tu vas loin et rapidement.
Oui, parce que Bénédicte s'est pas encore présenté.
Son tour viendra. Mais qu'on puisse au moins, dans un instant, moi, ce qui m'intéresse, dans le cadre de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a une vie, qui a un travail, qui, en l'occurrence pour toi, tu avais créé ta boîte, le fait que tu t'orientes vers du papier recyclable et de le revendre, on peut noter quand même un désir de se tourner vers tout ce qui a trait à l'écologie, d'une manière de concevoir la vie différemment. Déjà, c'est un premier pas. Tu fais ces salons de médecine douce, naturelle, et tu rencontres Martin Hoffman.
Brofman.
Alors, j'aimerais que tu me dises d'abord, d'une part, qu'est-ce qui t'a interpellé chez cet homme ? Parce que, entre guillemets, avoir une pratique, une méthode, c'est une chose. Mm-hmm. Mais il y a déjà, le charisme que peut revêtir quelqu'un qui est amené à enseigner, notamment. Okay.
Disons que, bon, comme je l'avais expliqué brièvement en antenne, le neveu de ma grand-mère était radiesthésiste dans les Vosges et il était très connu en France. Il travaillait avec le pendule, il analysait des buvards mouillés de la salive des gens et il découvrait les organes qui ne marchaient pas et il prescrivait des médicaments homéopathiques. Et donc j'allais souvent le rencontrer et donc avec lui j'ai eu mes premières expériences avec ce qu'on peut appeler l'énergie et la conscience. Et quelques années plus tard, quand je suis allé le voir, il m'a dit « c'est la dernière fois qu'on se voit parce que je vais mourir ». Et je l'ai entendu, mais j'ai pas été pris par
interpellé. T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 20 ans. Okay, mais j'étais dans une réalité totalement différente de ça, bien que la sienne m'attirait énormément et je lisais à ce moment-là beaucoup de livres sur la spiritualité, etc. Et quelques semaines après, je vais voir mes parents et ils venaient de recevoir une lettre de sa part. Et il leur disait au revoir et qu'il partait. Et quand j'ai vu cette lettre, j'ai sauté tout de suite dans ma voiture, j'ai fait 200 km avec ma femme à cette époque. Et quand je suis arrivé chez lui, la porte était ouverte, sa famille était autour du lit, il venait de mourir, il y avait 1 heure. Et donc là, j'étais choqué et je me suis dit, mais il avait prévu ça et il savait que je n'allais pas le revoir.
Mais apparemment, il avait une santé normale, enfin, il n'y avait pas de problème ou de symptômes apparents qui laisseraient à penser qu'il était sur le point de partir.
Non, a priori, non.
Okay. D'accord.
Et donc, ça m'a interpellé par rapport à la manière dont on est créateur et la conscience, etc. Et donc, par rapport aux livres que je lisais ou dans beaucoup de livres.
Et ta réflexion personnelle.
Beaucoup de philosophie et religion, on dit nous sommes créateurs. Et la manière dont les gens s'expriment ne reflète pas l'idée que nous sommes chacun des créateurs. Par exemple, si je dis, bon c'est un exemple, tu m'énerves, ok, ça ne reflète pas l'idée que je suis créateur. Ça a plus de sens de dire je décide de me laisser énerver par ce que tu fais ou ce que tu dis. À ce moment-là, je prends la responsabilité pour ce que je ressens et là je m'assieds dans le siège du conducteur de ma conscience et je peux changer quelque chose. Sinon, je donne le pouvoir à l'autre de décider comment je me ressens moi. Et à ce moment-là, donc que je me vois comme une victime et je vais chercher aussi la solution à l'extérieur. Et donc, par exemple, dans la réalité médicale, on dit tel virus va créer telle maladie ou tel accident va créer telle blessure. Donc nous, on dit ça c'est vrai, mais seulement quand les conditions dans la conscience de la personne le permettent. Okay, parce que des virus, par exemple, il y en a partout. Mais pourquoi certaines personnes attrapent un virus et tombent malades et d'autres qui sont à côté n'attrapent pas le virus ? La différence, c'est ce que la personne fait dans la conscience. Voilà. Et donc, ce discours, beaucoup de personnes l'ont. Mais
t'arrivais pas à le saisir ou à le confirmer dans ton expérience, dans ta vie ?
Ce que j'ai approché comme différentes méthodes de guérison reflétait l'idée qu'il faut du temps pour guérir. Et alors que l'idée de Martin Roffin, c'est que tout peut être guéri tout de suite. Alors ça peut choquer, évidemment. Donc l'idée, c'est qu'on regarde la guérison comme une co-création. Donc une création de la part du guérisseur, ce qui se passe dans sa conscience et qu'est-ce qu'il amène comme capacité dans la guérison. Et l'autre partie de la création, c'est ce qui vient de la part de la personne qui est donc sur le point d'être guérie. Et donc la guérison, c'est un processus de transformation, une transformation de la manière d'être qui a créé le symptôme. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'être, une personnalité particulière de myope, d'astigmate, de cancéreux, de personnes séropositives, etc. Ça veut dire que la personne a développé une manière d'être qui ne marche pas pour elle. Et donc, pour que la guérison se manifeste jusque dans la réalité physique et dans son corps, ça implique que la personne change la manière d'être donc, qu'elle avait développée et qui avait créé les tensions dans sa conscience et les symptômes. Et donc, par exemple, Martin Brofman, le créateur donc, du système du corps miroir, en 1975, il a développé une tumeur cancéreuse au niveau de la nuque, dans la moelle épinière. Et donc à ce moment-là, il travaillait comme expert sur ordinateur à Wall Street. Et donc pour lui, tout ce qui touchait à la spiritualité, c'était de la science-fiction. Et quand donc il a eu ses mouvements dans les bras, spastiques, etc., il a été consulter les docteurs qui lui ont découvert cette tumeur et qui lui ont dit « on doit vous opérer immédiatement ». Donc quand il a eu l'opération, après l'opération, les médecins lui ont dit on n'a pas pu retirer la tumeur parce qu'elle était enfoncée trop profondément. Et en fait, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est en phase terminale? Ils lui ont dit, oui, il vous reste un ou deux mois à vivre, sauf si vous toussez ou vous éternuez trop violemment. À ce moment-là, vous pouvez mourir tout de suite. Et donc, bon, tu sais que tousser, éternuer, ça peut arriver rapidement. Et donc, en fait, chaque seconde, c'était sa dernière seconde. Et donc, ils l'ont renvoyé à la maison avec seulement un régime alimentaire à suivre. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais un régime alimentaire, si je peux mourir la seconde d'après, ça ne fait pas de sens. Donc il a commencé à vivre d'une manière où il faisait simplement ce qui lui faisait plaisir à chaque instant. Et à un moment donné, bon, pour raccourcir l'histoire, il a rencontré quelqu'un qui enseignait la méditation zen. Et cet homme, quand il est rentré en conversation avec lui en parlant de son symptôme, il lui a dit, ton cancer démarre dans la conscience et c'est à cet endroit que tu dois aller pour qu'il parte également au niveau physique. Et pour lui, c'était la première fois qu'il entendait quelque chose comme ça. Mais puisque la réalité médicale ne lui donnait aucune chance, il s'est dit, là, il semble qu'il y ait une porte qui est ouverte. Et donc, je vais explorer cet endroit, cette voie. Et donc, quand il est rentré à New York, parce qu'à ce moment-là, il habitait aux États-Unis, il s'est mis en contact avec les personnes qui avaient des outils pour travailler dans la conscience et il a rencontré les personnes qui enseignent la méthode Silva. Ok, donc que tu connais peut-être.
Non.
Ok, c'est une méthode qui a été créée par un Américain dans les années 50 aussi, qui s'appelle José Silva. C'est une méthode qui est enseignée dans le monde entier. Ça a été enseigné également au Vatican. Ok, ils sont à peu près, je crois, 800 instructeurs dans le monde. Et c'est une reprogrammation positive au niveau du mental, où on travaille par la visualisation créatrice, etc. Et par exemple, chaque fois que Martin avait des chocs dans le corps qui lui disaient que la tumeur, en fait, si on reste dans la réalité médicale, était en train d'augmenter, il devait changer et donc créer que c'était la tumeur qui est en train de diminuer. Ou alors imaginer, visualiser la scène que quand il allait voir les médecins dans deux mois plus tard, il ne trouverait plus de traces de la tumeur. Dans la méthode Silva, il existe un certain type de méditation où on dit si vous faites cette méditation trois fois par jour pendant 15 minutes pendant 65 jours, 66 jours, vous pouvez changer n'importe quelle réalité. Et donc, bon, le moment du changement, quand est-ce que ça peut être? Ça peut être à n'importe quel moment. C'est un peu comme quand tu allumes un interrupteur électrique. Mais ensuite, c'est la manière dont tu te parles à toi-même dans la conscience. Donc au départ, bon, ce que Martin raconte, c'est qu'il a eu beaucoup de doutes parce que quand il y a un choc qui arrivait, il se disait « Ah !» À nouveau, c'est la tumeur qui est en train d'augmenter. Et là, il se voyait donc à nouveau dans un état de détérioration. Et bon, il a dû changer quelque chose à l'intérieur de manière à se voir non plus dans un état de détérioration, mais dans un état où il allait donc s'améliorer et guérir. Okay. Et donc, il a été capable de maintenir ces moments de plus en plus longtemps, jusqu'au moment où, à l'intérieur, dans sa conscience, c'était clair que la guérison, elle prenait place. Et donc, quand il est retourné voir les médecins quelques mois plus tard, donc ils n'ont plus trouvé trace de la tumeur. Et pendant ce processus de guérison, il a recherché dans toutes les philosophies et religions tout ce qui avait trait à la guérison. Et donc, il a trouvé que toutes ces philosophies et religions avaient, on peut dire, la même base, c'est que tout, nous sommes tous créateurs et que donc tout commence dans la conscience. Et qu'en fait, dans l'absolu, on peut tout guérir tout de suite. Et donc dans le corps miroir, on explore qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre dans la conscience pour que la guérison se manifeste tout de suite. Parce que si une personne veut guérir, c'est pas demain ou dans 15 jours, ok, c'est maintenant. Et donc on regarde, quand on aborde la guérison, c'est si le guérisseur il a des limites dans sa conscience, il se dit ouais je peux guérir les boutons ou le mal de tête ou par exemple un muscle enflammé, mais le cancer ça va être plus difficile, à partir de là le guérisseur met des limites dans la guérison. Okay, donc le guérisseur il doit ouvrir sa conscience. En fait le chemin du guérisseur, tu fais face à tes propres limites à chaque instant. Okay. Et ensuite c'est d'ouvrir la conscience de la personne qui va recevoir la guérison de manière à l'ouvrir à la possibilité de la guérison immédiate. Okay. Et ensuite c'est après la guérison de parler avec la personne, de lui dire ce qu'on a vu dans sa conscience, ce qu'on a fait et ce que ça signifie pour nous. De cette manière, la personne a des points de référence par rapport à ce qu'elle avait dans sa conscience, ce qui a créé les tensions et le symptôme. Et quand elle repart dans sa vie de tous les jours, elle a la possibilité donc de rester centrée de manière à ne pas recréer les mêmes tensions et ne pas recréer le symptôme.
Eh bien, oui, heureusement qu'il y a un verre d'eau, ça débite.
Voilà, oui.
Alors, on va voir un petit peu maintenant avec Bénédicte, puisque vous êtes deux, en plus il y a une belle polarité, un homme, une femme, donc voyons les énergies de Bénédicte. Bénédicte, est-ce que tu pourrais toi-même te présenter comme je lui ai demandé à Philippe ?
Avec plaisir, donc je m'appelle Bénédicte Audévoux, j'organise les ateliers de la vue et les stages de la méthode corps miroir, notamment pour Philippe Antel à Paris, également pour Annick Brofman. J'ai rencontré la méthode corps miroir en 1993. J'étais un peu toute gamine, j'avais 23 ans. Et le fait de rencontrer cette méthode, ces techniques et Martin Brofman donc également, j'ai plus de retour. Alors je sais pas si c'est normal. Mais... Ah, c'est le chat. Aïe. Donc j'ai trouvé en fait beaucoup de réponses par rapport à des expériences que je vivais dans mon quotidien, des expériences que je pouvais pas nommer, des expériences qui dont je pouvais en parler avec personne parce que j'avais vraiment l'impression en fait d'être une extraterrestre et que j'aurais pu être prise pour une folle peut-être. Ça va être des histoires peut-être de télépathie ou de vivre le même rêve avec ma meilleure amie au même moment et de se le raconter le lendemain, ce genre de choses. Je me sentais un petit peu perdue avec tout ça. Je suis partie donc assez jeune de Grenoble pour rejoindre Paris, prendre des cours de théâtre et explorer donc des univers qui me semblaient peut-être adéquats à ce que je cherchais. Et je ne trouvais pas et rien ne me correspondait. Et j'expérimentais aussi toute forme d'expérience qui me rapprocherait de ces états un peu spirituels, je dirais, sans trouver de réponse, jusqu'à cette rencontre avec la méthode corps miroir. Et ce que j'ai trouvé donc génial, c'est que Martin Brofman a su trouver un langage, a su créer un langage très simple, à la portée de tous, et qui permet de traduire, je dirais, mentalement des expériences qu'on peut vivre à un certain niveau, au niveau de son cœur déjà, et ensuite un petit peu plus profondément au niveau de son esprit. Et là, donc, j'ai trouvé vraiment, pour moi, c'était une famille. Et puis, c'était un job, puisque je me suis mis donc à donner les guérisons assez vite en séance individuelle, à déjà à l'époque organiser des stages. J'ai lâché un petit peu cette activité pendant un moment, de 96 à 2000. Et puis ensuite, Philippe m'a rappelé en me disant « Béné, est-ce que tu veux revenir à nouveau organiser nos stages ?» Et donc, c'est avec grand, grand plaisir.
Ça fait qu'on... Excuse-moi, Bénédicte.
Oui.
Comment est-ce que tu as rencontré... Alors, je ne sais pas si tu as rencontré directement Martin Brofman ou si tu as rencontré peut-être Philippe au tout début. Comment ça s'est passé, ton premier contact ?
Mon premier contact, en fait, c'est un ami coiffeur qui était de passage à Paris. Donc, il venait de Grenoble, il était de passage à Paris. Et il me dit, oui, Béné, je suis de passage par là, je viens te voir, je suis guérisseur. Et moi, je me suis dit, ça y est. Il voyageait beaucoup en Inde, notamment, ce genre de choses. Olivier doit être dans un drôle d'état, mais enfin bon, viens à la maison et montre-moi. On était quand même assez proches et assez branchés, mais bon. Et il m'a donné ma première guérison. Et là, j'ai ressenti à la fois la cohérence de ces techniques et puis aussi effectivement le fait de pouvoir diriger son intention et son attention de guérisseur dans un but qui est, enfin de guérisseur disons spirituel, dans un but qui est la guérison. Pour moi, ça a été vraiment merveilleux. Bon, je passe les détails, mais c'était vraiment profond et je suis tout de suite allée faire un week-end avec donc une enseignante qui n'enseigne plus ces techniques maintenant. Et tout de suite, donc, je me suis mise en fait à donner la guérison. J'avais 23 ans. Ça surprenait beaucoup de gens quand ils venaient me voir parce qu'ils pensaient trouver une femme de 60 ans ou de 70 ans avec les cheveux blancs et la grande robe. Pas du tout. Et les résultats étaient là. Donc moi, ça m'a vraiment encouragée dans ce processus. Puis donc, comme le décrivait Philippe, après, c'est vraiment aussi comme une méditation et comme un chemin de vie. Et qu'on soit, je veux dire, professionnellement magnétiseur, on dit comme ça en France, hein, ou harmonisation énergétique, ou qu'on fasse autre chose, après, ça devient vraiment... une démarche quotidienne de à la fois rester en équilibre pour soi-même, de voir aussi les interactions qu'on va co-créer avec les autres. Et donc toute cette conscience-là, elle est importante à mettre en place pour soi-même et aussi à diffuser dans nos sociétés.
Vraiment. Alors, quand tu nous dis que tu as reçu ton ami Olivier la première fois, qui te disait « je suis guérisseur », ce qui n'est quand même pas rien, effectivement.
Ouais.
Puis c'est vrai que quand on est jeune, bon, tout dépend de l'approche qu'on a, mais on va dire qu'il y a de cela des dizaines d'années, on n'a pas l'approche ou l'éveil que l'on a à être habitué à parler de spiritualité, à vraiment saisir tout ce qui a trait au domaine de la guérison,
exactement,
de la conscience. Donc on remonte un peu dans le temps et le rapport à tout ça n'était pas le même. Alors, que tu reçoives Olivier chez toi, que tu nous parles de guérison, hein, on est bien d'accord,
hein,
il te fait une guérison.
Oui.
La question, est-ce que c'est une guérison d'ordre physique,
okay,
ou émotionnel, psychologique?
Ok, donc justement la guérison, et bon, c'est un mot qui est, j'aimerais juste quand même l'exprimer en radio, c'est un mot qui n'est pas autorisé en France. C'est un mot aussi qui est chargé de plein d'un vécu avec les sorcières au Moyen-Âge. C'est très français dans plein d'autres pays, donc Philippe enseigne à travers le monde. C'est pas perçu de la même manière, ce mot.
Disons
donc
que,
pour nous, il est très lourd.
Pardon. Par exemple, en anglais, healing, le mot healing, qui signifie donc guérison en français, donc est différent donc, du mot guérison en français. Quand on dit guérison en français, ça implique une obligation de résultat. Et donc c'est pour ça que c'est interdit d'utiliser ce mot en français. On préfère dire magnétiseur ou harmonisateur énergétique,
voilà,
ou mécanicien de chakra ou ce que tu veux. Mais il faut savoir que la guérison, elle se passe à tous les niveaux. Okay, c'est au niveau spirituel, au niveau émotionnel, mental, jusqu'au niveau physique. Okay, donc le guérisseur, avec sa conscience, rentre dans la conscience de l'autre, okay, utilise différents outils dont on pourra parler tout à l'heure. La guérison, donc, redescend, l'énergie de guérison redescend les différents niveaux de la conscience pour une manifestation totale de la guérison jusqu'au niveau physique. Et donc l'idée, c'est que, également avec laquelle on travaille, c'est que tout peut être guéri. Okay. Il n'y a pas de symptômes dont on ne peut pas guérir.
Mais c'est pour ça que je posais la question à Bénédicte, parce que dans l'espace d'une rencontre avec cet ami qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, pour, on va dire, semer dans la conscience pour que ça puisse descendre dans le corps, c'est, tout dépend peut-être de la rapidité de celui qui accueille, celui qui vient à lui en tant que magnétiseur. Donc,
okay. Juste pour rapport à ça, donc... Le seul travail, entre guillemets, travail qui a été fait avant et qui est fait avant une guérison, c'est juste de savoir, de dire à la personne qui va recevoir cette guérison, d'ouvrir une petite porte à ce que tout soit possible. Et tout est possible, on le sait. Donc, c'est la seule condition, entre guillemets, pour qu'effectivement une guérison puisse être efficace et qu'on obtienne des résultats. La guérison, c'est un mot qui intègre effectivement le côté physique, s'il y a un symptôme sur le plan physique, mais tout l'être, la totalité. Et c'est pourquoi aussi, bon, je suis d'avis qu'on répande la méthode corps-miroir notamment, etc., parce que la médecine traditionnelle, enfin la médecine classique, prend en considération l'aspect physique d'une maladie, mais ne prend, bon, c'est de mieux en mieux, mais c'est, en France on n'y est vraiment pas encore, ne prend pas en compte la totalité de la personne avec ce qu'elle vit justement au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau spirituel. Et ça c'est important, hein, on va pouvoir guérir peut-être un symptôme physique, mais si la personne n'a pas transformé les causes, le malaise qui a amené ce symptôme physique, alors soit ça va revenir, soit ça reviendra, mais sous une autre forme. Et c'est pourquoi cette guérison, on peut l'appeler complétude, quelque chose de complet.
Mais c'est particulièrement frappant, par exemple, avec les problèmes de vue, où quand une personne va voir un ophtalmo, il ne tient aucun compte de l'état mental, émotionnel d'une personne. Okay, pour lui, l'œil fonctionne comme une caméra, et ce qu'il veut, c'est permettre à cette caméra, à nouveau, de voir parfaitement. Okay. Et donc dans les écoles d'ophtalmo, on n'apprend pas du tout aux étudiants à regarder l'état mental ou émotionnel d'une personne. Et donc ça se reflète aussi dans le reste des symptômes que peut développer une personne. Et donc quand on parle de guérison, c'est pas seulement une guérison d'un symptôme physique, c'est aussi tout ce qui marche pas dans la vie d'une personne. Si une personne a des problèmes d'argent, a des problèmes de trouver un travail, a des problèmes de relations avec ses parents, ses frères et sœurs, ou quoi que ce soit, donc ça fait partie aussi de la guérison. Ça veut dire que la manière d'être de la personne l'empêche de trouver un travail, l'empêche d'avoir l'abondance, que ce soit financière ou l'abondance à tous les niveaux dans sa vie, ou l'empêche donc d'avoir des relations harmonieuses avec ses parents. Et donc dans le feedback, dans le retour d'information que le guérisseur va faire après la guérison, il va donc dire à la personne ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ce que ça signifie pour lui. Et la personne va voir comment ça lui parle et va pouvoir reconnaître qu'est-ce qui a pu créer les tensions dans sa conscience, de manière à ce qu'on ne laisse pas à nouveau la personne partir dans sa vie de tous les jours en disant il n'y a plus rien à faire, le travail est terminé. En fait, la maladie ou la bonne santé, ce n'est pas un état stable, ça dépend comment chacun on répond aux expériences qui nous sont proposées dans notre vie. Et donc le but, c'est d'apprendre à fonctionner à des niveaux plus profond de sa conscience. Donc dans les stages, on apprend non seulement aux gens à fonctionner avec des outils, à sentir l'énergie et la diriger avec la conscience, à voir cette énergie, ce qu'on apprend les auras, à voir ou imaginer les chakras, les centres d'énergie. Mais ensuite, c'est que la personne développe une autre philosophie de vie et dans sa vie de tous les jours puisse couler facilement, on peut dire suivre un chemin de moindre résistance. Okay. Quand on parle de la conscience, on peut la diviser en 7 parties principales. Et à chaque partie donc, est reliée un chakra. Un chakra, c'est un mot sanskrit qui signifie roue ou vortex d'énergie. Et donc à chaque chakra sont reliés des aspects de notre conscience, un groupe de nerfs, un plexus nerveux, une glande endocrine, des organes physiques et des fonctions spécifiques dans le corps. Donc par exemple, si une personne va marcher dans la forêt, elle rencontre un ours, c'est très courant les ours dans les forêts en France. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre un ours? En général, on a peur. Et donc la peur, c'est une tension dans la conscience. Donc cette tension vient s'inscrire dans le chakra en relation. Et dans ce cas-là, c'est le chakra racine qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Et donc le chakra prend la tension et va la communiquer au groupe de nerfs du plexus nerveux qui descend dans les jambes. Et donc par exemple, quand on a peur, les jambes elles tremblent. Mais aussi le chakra communique avec les glandes endocrines qui sont reliées à ce chakra racine, c'est les surrénales. Et les surrénales produisent l'adrénaline qui permet donc de faire face à la menace extérieure ou bien d'énergétiser les jambes pour s'enfuir. Et donc si une personne maintient une tension permanente dans un chakra, eh bien elle change la structure biochimique de son corps. Et donc à partir de là, elle va pouvoir développer un symptôme. Okay. Et donc quand une personne a un symptôme particulier, on va lire le corps comme une carte de la conscience à l'intérieur. Et donc par exemple, pour une personne qui a un symptôme de la vue, le sens de la vue est relié au chakra du plexus solaire. Et là, les aspects de conscience, c'est la liberté d'être soi-même, le pouvoir, le contrôle. C'est aussi le niveau mental, la définition de soi. Donc on pourra dire que la personne qui a un symptôme de vue ne se sent pas libre d'être elle-même, se cache à elle-même ou a une difficulté d'avoir une certaine définition d'elle-même ou donne son pouvoir à l'extérieur. Mais ensuite, on peut regarder plus précisément quels symptômes de vue. Donc par exemple, les myopes. Si on parle de la myopie en termes d'énergie, un myope, il dirige l'énergie vers lui-même parce qu'il rapproche les choses pour les voir. Et donc, il se retire à l'intérieur de sa bulle. Il se met en retrait d'un monde extérieur menaçant. Et donc, pour un myope, il y a aussi des tensions dans le chakra racine. Et là, les aspects de conscience, c'est la sécurité, la confiance. Donc le myope est en insécurité par rapport au monde extérieur. Et quand sa conscience va dans le futur, elle se projette dans un futur négatif. Donc voilà, ça c'est la personnalité type du myope et c'est ce qu'il a besoin de changer pour retrouver une vue claire.
Je t'arrête, on va faire déjà la première page promotionnelle, mais très, très intéressant tout ce que vous venez de nous dire. Je vous rappelle que nous accueillons aujourd'hui Philippe Antel et Bénédicte Odéou pour nous parler de la technique corps miroir. Et c'est la première page promotionnelle de cette émission. Alors j'ai un numéro de téléphone à vous communiquer, j'ai un site internet ainsi que deux conférences et deux stages. Je vous laisse donc quelques instants pour prendre un papier et un crayon. Le numéro de téléphone, le voici, un numéro de fixe, le 01 47 70 66 87. Le site internet, www.healer.ch. Healer s'écrit H-E-A-L-E-R. CH. Alors une première conférence qui aura lieu vendredi 27 février à 20h. La thématique en sera vision comme métaphore. Cette conférence aura lieu 39 rue de Charonne dans le 11e arrondissement, donc du côté de Bastille. Je vous rappelle donc que cette conférence aura lieu le 27 février à 20h. Elle sera suivie d'un stage, intitulé Atelier de la vue, ce qui fait écho tout de suite à ce que nous disait Philippe à l'instant. Et ce stage durera le temps d'un week-end, du 28 février au 1er mars. S'en suivra, pour ceux et celles qui n'auront peut-être pas la possibilité de faire cette conférence ou ce stage, il y aura une prochaine conférence qui aura lieu le 3 avril. La thématique en sera justement le corps miroir, et cette conférence sera suivie d'un stage corps miroir du 4 au 5 avril. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, le 01 47 70 66 87. Tu souhaitais nous dire, Bénédicte ?
C'est mon numéro de téléphone. Bienvenue, n'hésitez pas à me contacter.
D'accord, enfin de première page promotionnelle. Alors, je reprends certaines choses qui ont été dites parce que c'est à travers ce que tu nous entretiens, c'est très riche. Il y a beaucoup d'informations et j'aimerais qu'on puisse poser les choses pour que les auditeurs puissent décrypter tout ce que ça engage, je dirais. Tu nous disais notamment qu'au début, toi-même, tu avais des problèmes de vue.
J'étais myope et astigmate.
Et astigmate. Tu viens de nous parler de la myopie.
Oui.
D'accord ? Pourquoi est-ce que quelqu'un a besoin de lunettes pour voir loin ? Pour ce qui est de quelqu'un d'astigmate.
Non, pour voir près, les myopes, ils doivent rapprocher pour voir près.
Oui, okay. Oui, enfin, bon, il y a besoin de lunettes pour voir loin.
Oui.
Voir clair au loin.
Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Philippe ?
Oui, tout à fait.
Alors, pour ce qui est de quelqu'un qui donc, n'est pas atteint de myopie, mais qui est astigmate, qu'est-ce que ça sous-entendrait ?
Un astigmate, c'est par exemple un astigmate, il regarde une ligne droite, elle lui paraît tordue. Okay, donc, c'est une distorsion de la vision et qui correspond à une distorsion de ses propres valeurs. On a une polarité dans le corps. Pour les droitiers de naissance, l'œil droit, c'est l'œil de la volonté et l'œil gauche, l'œil des sentiments, des émotions. Pour les gauchers, c'est inversé. Donc, si une personne est droitière, son œil droit va représenter, voir clairement ce qu'elle veut. Okay, et son œil gauche voir clairement ses émotions, ce qu'elle ressent. Quoi. Par exemple, pour un astigmate, dans une situation particulière, il sent quelque chose qui monte, qu'il a envie d'exprimer. Il s'est dit « Ah non, je ne vais pas exprimer ça maintenant, pour quelque raison que ce soit, je vais plutôt exprimer ça à la place. » Et ensuite, il se fait croire que c'est ça qu'il voulait vraiment exprimer. Mais à la fin de l'expérience, il ne sait toujours pas ce qu'il veut vraiment et ce qu'il ressent vraiment. Donc c'est une distorsion de ses propres valeurs. Plutôt faire confiance à ce que veulent ou ressentent les autres, plutôt que pour lui, pour lui-même. Et puis il y a aussi donc les presbytes ou hypermétropes, qui eux, si on regarde aussi en termes de direction de l'énergie, ils sont obligés d'éloigner les choses, donc d'allonger leurs bras pour voir clair. Et donc de cette manière, ils se retirent de l'intérieur de leur bulle ou alors ils tiennent le monde extérieur aussi à distance. Et il y a un filtre perceptuel émotionnel qui est relié avec ça, comme pour la myopie, le filtre perceptuel émotionnel était l'insécurité ou la peur. Pour les presbytes hypermétropes, le filtre perceptuel émotionnel est la culpabilité ou la colère. Et quand le presbyte ou hypermétrope pense au passé, c'est avec ce sentiment de colère ou culpabilité. Hein. Regarde cette personne, ce qu'elle m'a fait, ou j'ai pas été gentil avec cette personne, et la personne donc a un sentiment de culpabilité. Voilà. Alors, ça, c'est pour les erreurs de réfraction. Mais aussi, il y a d'autres problèmes de vision. Il y a le glaucome, la cataracte, etc.
Okay. Alors, c'est sûr que les mots humains, MAUX, sont très nombreux. Mm-hmm. Il est intéressant de voir, à travers ces quelques exemples concernant la vue, parce que bon nombre de gens portent des lunettes de manière générale. Donc, il est intéressant de voir, en tout cas, la manière dont tu mets en avant la description de ces symptômes d'un point de vue de la psychologie, de l'émotionnel, qui influe directement sur notre corps. Maintenant, pour ce qui est de la pratique en elle-même, j'aimerais saisir un petit peu. Faire prendre conscience à quelqu'un du pourquoi il a tel ou tel symptôme lui permettrait, sur en tout cas plus ou moins à long terme, d'éradiquer totalement ce symptôme. Cela suppose qu'elle change totalement de vie, puisque c'est sa manière de voir la vie qui a créé ce symptôme. Est-ce que ça, de par les conférences que tu peux faire, Philippe, ou pour toi, Bénédicte, des personnes que vous rencontrez, est-ce que c'est facile à entendre et accepter ? Pourquoi je pose cette question ? À l'heure actuelle, la France est le premier pays consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il y a « je vais mal dans ma vie, j'ai envie de maigrir », qu'importe la problématique, petite pilule. Donc là, il ne s'agit pas du tout de pilule. Il s'agit de faire un effort de conscience. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que c'est abordé, accepté ?
C'est compris. Le pourcentage de personnes qui comprennent dépend, on peut dire, de chaque pays. Okay ? Il y a des pays où c'est totalement ouvert. Cette forme, que ce soit la guérison corps mémoire ou d'autres formes de thérapie de guérison, etc. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec ça dans beaucoup de pays européens. La France est un peu le pays qui résiste le plus au niveau européen, déjà au niveau gouvernemental, mais aussi par rapport aux gens. Bon, bien que les gens admettent qu'ils vont voir des rebouteux, des guérisseurs, etc., mais aussi dans la manière dont les guérisseurs sont acceptés dans les hôpitaux. Bon, en France, il y en a quelques-uns qui sont appelés en secret par les grands pontes. Il y avait une émission la semaine dernière que j'ai vue sur Direct 8 par rapport à ça avec Thierry Janssen, qui est un ancien chirurgien. Oui. Et c'était très intéressant, où ils interviewaient aussi des...
C'était les guérisseurs La Foi, La Science.
Voilà. Et donc, ils disaient qu'on les appelait un peu en secret pour venir quand les grands pontes médicaux arrivaient, plus rien à faire. Mais sinon, il y a une grosse résistance par rapport à ça. Maintenant, si je ramène ça au point particulier des lunettes, bon, c'est vrai qu'il est plus facile d'aller chez l'ophtalmo, d'aller ensuite chez l'oculiste. On met une paire de lunettes. En général, on voit clair. La tension dans la conscience, elle est là. Et ce qui est intéressant, par exemple, une personne a un trouble de la vue. Okay, au départ, c'est simplement une tension dans la conscience qui se manifeste physiquement. Okay, il n'y a pas de nom sur l'expérience. La première perception qu'elle choisit, c'est en général, j'ai un problème avec mes yeux. Donc, elle va voir l'ophtalmo. L'ophtalmo, bon, on y va, il met ses petits verres devant les yeux de la personne et lui dit, quand vous voyez clair, vous me le dites. Okay. Et donc ensuite, d'après ce qu'il a vu, il va dire à la personne, vous êtes myope. Ah, maintenant, il y a un mot sur l'expérience. On dit à la personne, vous êtes myope. Donc, la personne va se parler d'une certaine manière. Je suis myope et en fait, il m'a dit, ça n'allait pas s'améliorer. Ok, donc ça c'est déjà la personne
se
programme dans une certaine direction,
d'accord,
avec aucune porte ouverte pour la guérison. Et ensuite, la personne, avec sa prescription, elle va chez l'oculiste pour faire ses nouvelles lunettes. Et l'oculiste, bien que maintenant ça puisse aller très vite, on peut les faire les lunettes en une heure, mais si la personne revient, même une heure après, et la personne met les lunettes sur les yeux, et les yeux lui tire, ou il y a le plancher qui bascule et la personne dit à l'oculiste « Oh, les yeux me font mal. Okay, et vous êtes sûr que c'est la prescription pour moi ?» Et l'oculiste lui dit « Oui, c'est bien votre prescription. » Et il dit une chose intéressante « Mais vos yeux doivent s'habituer aux lunettes. » Alors comment ça se fait que les yeux doivent s'habituer aux lunettes puisqu'on vient de me faire la prescription exprès pour moi ? C'est un peu comme si tu fais faire des chaussures sur mesure et puis tu les mets aux pieds, elles te font mal et que le chausseur te dit mais vos pieds doivent s'habituer aux chaussures. Maintenant si on regarde les choses d'une autre manière.
Excusez-moi juste pour aller dans ton sens, ce que je trouve aussi intéressant dans ce cadre précis, cet exemple que tu viens de nous donner, c'est qu'en plus les lunettes, on peut choisir leur forme, leur couleur. Donc c'est en même temps, il y a un côté design, ça fait chic des fois d'avoir des lunettes, pourquoi pas. Ça aussi, dans notre société, quelqu'un qui porte des lunettes revêt d'une certaine manière un rôle bien spécifique.
Oui, on a développé une société où on est dans une société où ça fait bien maintenant d'avoir des lunettes. Et maintenant, il y a des lunettes Yves Saint Laurent, Gucci ou quoi que ce soit. Okay. Et bon, ce qui est intéressant aussi, c'est si on regarde l'autre point de vue, que tout démarre dans la conscience, on peut dire que quand la personne a été passée cet examen de la vue chez l'ophtalmo, elle avait certaines tensions dans sa conscience et donc une certaine qualité de vision. Quelques temps après, quand elle va pour rechercher ses lunettes, il y a d'autres choses qui se passent dans sa conscience et une autre qualité de vision. Et donc, quand elle va mettre les verres, eh bien, les yeux et les muscles autour des yeux, on a 6 muscles autour des yeux, doivent recréer les tensions pour voir à travers les verres qui ont été prescrits.
Le filtre des verres, oui.
Ce qui fait que la personne, non seulement doit maintenir, quand elle met tout le temps les lunettes, doit maintenir tout le temps les tensions autour des yeux, mais aussi maintient les tensions dans sa conscience qu'elle avait au moment où elle a passé les visites. Et ce qui fait qu'au bout de quelques jours, la personne ne s'aperçoit même plus de ça, parce que la personne s'est habituée aux lunettes. La vue, c'est un processus qui ne nécessite aucun effort. Mais avec les lunettes, la moindre tentative pour les yeux de se relaxer, c'est impossible, parce que les yeux doivent maintenir l'attention pour voir clair. Okay. Et de plus, quand on maintient les lunettes tout le temps, eh bien, le mouvement des yeux est découragé. Parce que si tu regardes par exemple une paire de lunettes, le seul endroit où les yeux voient vraiment clair, c'est au centre. L'endroit où l'ophtalmo a mesuré la distance entre les deux iris. Et donc, chaque fois que les yeux veulent aller voir ailleurs, eh bien, ils ont tendance à revenir vers l'endroit où ils voient clair, parce qu'autrement, ils voient trouble. Okay. Donc, la personne maintient un regard de plus en plus fixe et une certaine manière d'être dont elle ne se rend même plus compte.
Alors, j'aimerais avoir peut-être l'avis de Bénédicte concernant la question que j'ai posée sur cette, peut-être, entre guillemets, facilité à ceux et celles qui vous écoutent lors, par exemple, des conférences, mm-hmm. à accepter que, quelque part, pour aller mieux, mm-hmm. physiquement déjà, mm-hmm. ils doivent changer leur manière de voir le monde, changer leur conscience. Est-ce que ça, c'est un travail qui est facile à faire ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, c'est pas mal votre truc, mais j'ai pas envie de changer. Hein. »
Ok. Ça demande pas nécessairement un effort. À partir du moment où on découvre le travail avec la conscience, le travail avec l'énergie, où soudainement on a soi-même, où on apprend donc à se percevoir et à percevoir l'extérieur d'une certaine manière, alors on a le choix évidemment de continuer sur cette route ou bien de complètement l'oublier et de se dire non, c'est pas vrai, j'ai rien vécu à ce niveau-là et je suis... Mais ce n'est pas possible. Il y a un certain moment où il y a un point de non-retour quand on commence sur ce chemin-là. Il ne s'agit plus d'un travail, mais juste d'une direction à prendre. Après, la transformation par rapport à sa vision, la vision qu'on a de soi-même et la vision qu'on a de l'extérieur, elle peut être progressive, comme elle peut être vraiment ici et maintenant. Et ça se passe super facilement pour certaines personnes qui lâchent les lunettes, qui retrouvent une vue et donc une vision claire. C'est pas pour ça qu'ils vont, forcément tout transformer et tout chambouler dans leur vie. Mais évidemment, ça va demander une transformation, je dirais, au niveau de la personnalité.
En fait, la personne ne devient pas quelqu'un d'autre, elle devient vraiment qui elle est à l'intérieur.
Exactement.
Okay, en ayant retiré toutes les tensions, toutes les structures, les programmes qu'elle avait mis à l'intérieur. C'est pour ça que il y a une différence de manifestation dans les guérisons. Il y a des guérisons qui se passent tout de suite, il y en a qui prennent du temps parce que les gens changent progressivement, et puis il y en a qui peuvent ne pas se passer parce que la personne décide de ne pas changer. Okay. Et comme je te l'ai dit au départ, la guérison c'est toujours une co-création. Donc le guérisseur dans tous les cas doit voir ce qu'il amène dans la guérison et qu'est-ce qu'il a dans sa conscience. Okay. Est-ce qu'il a envie de faire cette guérison maintenant, de travailler avec cette personne? Est-ce qu'il croit qu'il peut tout guérir ou est-ce qu'il a des limites? Ça c'est la partie du guérisseur. Et ensuite la personne qui reçoit la guérison doit être ouverte à la possibilité d'une guérison et ensuite accepter donc de changer les choses qui marchaient pas. Le guérisseur propose dans le feedback, voilà ce que j'ai vu, ce que ça veut dire, et ensuite la personne dit oui ou non, ça me parle pas. Et ensuite dans sa vie de tous les jours, la personne a toujours le choix. Ok, c'est pas le guérisseur qui va faire le travail pour la personne à ce niveau là.
Alors justement, abordons ce côté là si tu le veux bien, si vous le voulez bien. Pardon. Tu mentionnais tout à l'heure, c'est Bénédicte, mm-hmm. je pense, que quelqu'un peut venir vous voir, peut être guéri d'un mal, quel qu'il soit, physique en tout cas, de prime abord. Mais si cette personne-là, suite au feedback, donc après la séance, lorsque vous en parlez tous les deux, vous lui faites part de ce que vous avez vu à travers ces différents corps, le pourquoi de tel mal, etc. Si cette personne-là décide de ne pas changer sa manière de voir le monde, sa manière de se voir et de se voir avec les autres, elle va revenir, ce mal, entre guillemets, quel qu'il soit, va revenir après un certain laps, plus ou moins long.
Ouais, j'ai juste quelque chose à dire. C'est, si une personne vient, que ce soit pour un stage de guérison ou pour une séance individuelle, cette personne, c'est que quelque part, elle a décidé qu'elle voulait transformer des choses dont elle ne voulait plus dans sa vie. Ça, c'est sûr. Et si la personne n'a pas envie, en général, elle ne se présente pas. Bon, quelquefois on fait un petit travail pour voir si vraiment c'est juste de la flûte et que ça n'est pas vrai. Mais en règle générale, voilà, quelqu'un qui se présente, c'est vraiment quelqu'un qui a maintenant, ça y est, besoin, envie d'une transformation et qui est prêt à ça. Jusqu'à quel point elle va s'ouvrir, ça dépend. Mais en tout cas, de toute manière, il y a vraiment un mouvement qui est mis en route vers quelque chose de différent et de mieux.
D'accord. Donc, on peut dire dans une certaine mesure, tout dépend de l'ouverture de conscience de la personne. Déjà, le fait qu'elle ait fait la démarche, c'est un bon point, comme tu viens de le mentionner. Ça montre qu'il y a le désir de changer. Quoique, ça peut être aussi tout simplement le désir de ne plus souffrir dans son corps. Et ce n'est pas parce que, quelque part...
un changement aussi, ça. Hein.
Oui, c'est
si
sûr.
Si quelqu'un souffre et ne veut plus souffrir, c'est juste
un changement. On est d'accord. Mais... Je reviens sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si effectivement en France, quand quelqu'un a mal physiquement ou psychologiquement, il y a la petite pilule magique quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté. Parce que combien sont ceux et celles d'entre nous qui pourraient aller voir, exemple, un psychologue pour régler des problèmes, des schémas répétitifs? Et on est tous dedans, à certains degrés. Hein. Donc la question que je pose par rapport à ce que tu viens de me répondre, Bénédicte, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un serait amené à vouloir changer psychologiquement, à voir le monde différemment, dès le moment où son mal, vous avez réussi à le faire partir dans une séance individuelle?
Oui, bon, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont essayé toutes les formes de médecine possibles, conventionnelles, et bon, elles n'ont pas eu de résultats, ou très peu. Et puis, elles ont essayé aussi la psychologie ou d'autres formes de thérapie. Et bon, elles se rendent compte que là, bon, il y a besoin de beaucoup travailler sur soi-même, elles n'ont pas envie de faire ce travail mental, etc. Et donc, elles s'orientent vers un travail énergétique, comme celui qu'on fait. Et dans le processus de guérison, à travers le processus de guérison, quand tu relâches les tensions dans la conscience, tu as une expansion de conscience chez la personne. Et donc, après la guérison, la personne se voit différemment et perçoit le monde extérieur différemment. Et donc, à travers le feedback, ça va permettre, on peut dire, d'asseoir la personne dans la guérison et de lui donner la solidité de manière ensuite, dans sa vie de tous les jours, d'être capable d'appliquer cette nouvelle manière de voir les choses.
Donc, d'une certaine manière, vous lui donnez les clés, les outils pour...
Oui,
et
parce
après, quelque part, elle en fait ce qu'elle veut, mais il est possible qu'à un moment donné, effectivement, même si elle ne les a pas utilisés, elle se dise, bon, voilà, là, je sens que je ne vais pas bien, j'ai les outils, autant les mettre en pratique.
Oui, mais c'est comme être plombier ou charpentier. Pour être un bon plombier ou pas charpentier, tu as des outils, il faut les utiliser. Okay, là, c'est la même chose. Les outils, tu peux les utiliser sur toi-même ou tu peux te dire, bon, je les ai dans la poche, mais je n'ai pas envie vraiment de travailler avec ça aujourd'hui. Alors, on peut dire que si une personne a un symptôme qui est une question de vie ou de mort, là, tu as une bonne raison de les utiliser. Maintenant, si tu dis, bon, j'ai un petit truc ou une relation qui ne marche pas, bon, je m'en fous, je vais régler ça autrement. Donc, chacun a le choix à chaque instant. Okay, c'est bon, on est dans une société, on peut dire, qui crée des victimes à répétition, où les gens se laissent mettre dans ce rôle de victime. Et donc le but, c'est d'aller fonctionner, comme je le disais tout à l'heure, dans des endroits plus profonds. Si je peux décrire brièvement les chakras, les centres d'énergie, on peut dire que dans la psychologie occidentale, on parle du conscient. Okay, et de l'inconscient au subconscient. Dans cette carte des chakras, il y a le chakra racine qui correspond au niveau du corps physique, le deuxième chakra, le chakra orange, qui correspond au niveau du corps émotionnel, et le troisième chakra qui correspond au niveau du mental. Et ça, dans la psychologie, c'est ce qu'on appelle le conscient, donc le physique, l'émotionnel et le mental. Et donc la plupart des gens se déplacent dans ces trois niveaux seulement. Et au-dessus, les états de conscience plus profonds sont décrits par la société comme des états de conscience non ordinaires, où on peut admettre que des maîtres, des êtres évolués comme Jésus ou Bouddha aillent dans ces états de conscience, mais pas les autres. Mais on a tous les mêmes outils à l'intérieur, et on est tous capables de fonctionner dans ces états profonds de conscience. Et donc au-dessus du plexus solaire, du niveau du mental, il y a le chakra du cœur. Okay, et le chakra du cœur, c'est un passage obligé pour faire l'expérience des états de conscience plus profonds. Ensuite, il y a le chakra de la gorge et le chakra du front qui est le niveau de l'esprit. Et l'esprit, c'est ce que la psychologie appelle l'inconscient ou le subconscient. Et si on continue d'utiliser ce mot inconscient, par exemple, une personne dit « Oh, bah, c'est arrivé comme ça par hasard », ça veut dire que la personne croit que des choses arrivent dans sa vie, elle ne sait pas pourquoi. Donc le but, c'est de rendre ce niveau de l'esprit conscient, de rendre l'inconscient conscient. C'est-à-dire que l'esprit, c'est le niveau où chacun d'entre nous, on crée notre réalité physique à travers les buts, les images qu'on énergétise à ce niveau-là. Et donc, c'est de faire la relation directe entre la réalité qui est créée autour de nous et les images qu'on a énergétisées là. Et là, tu vois cette relation directe. Et là, tu rends cet inconscient conscient. Okay ? Et le niveau le plus profond, c'est le chakra coronal. Okay ? Et donc, là, le chakra du front, c'est le niveau de la co-création. Je me vois comme un esprit dans un corps en train de créer ma réalité autour de moi, et je te vois comme un esprit dans un corps en train de créer ta réalité autour de toi. Et l'endroit où ces deux réalités se rencontrent, ça crée, on peut dire, un hologramme à trois dimensions qu'on s'est mis d'accord pour appeler la réalité physique extérieure. Et donc tout ce qui se passe dans la réalité physique est le résultat de ce qui s'est passé dans chaque point de conscience impliqué dans une expérience. Et le niveau le plus profond, le chakra coronal, c'est le niveau du « je suis ». Je suis une conscience en train de créer toute l'expérience autour de moi.
Okay. On parle de la méthode Coué, justement. La méthode Coué, bon, pour ceux et celles qui ont une idée approximative, voilà, c'est de s'auto-convaincre, entre guillemets, de se répéter, bah, par exemple, je vais bien, tout
va
bien.
Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Voilà.
Okay. Mais ça fonctionne seulement dans un certain état de conscience, alors, qui est le niveau alpha.
Voilà, alors explique-nous un petit peu pourquoi est-ce que certains qui ont pu essayer cette méthode Coué estiment que c'est une méthode qui ne marche pas. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, ou celui de Bénédicte, manque pour faire en sorte que cette co-création fonctionne?
Okay. Bon, déjà, je dois dire quelque chose par rapport à Coué. C'était quelqu'un qui était très renommé et très apprécié en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis. Okay. En France, même à son époque, il était décrié. Okay. Et ça continue maintenant. Quand on regarde, par exemple, des journaux ou des journalistes qui parlent, oui, ils ont appliqué la méthode Coué, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Okay. Et en fait, Coué disait à ses clients d'utiliser ces phrases tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, mais dans un certain état de conscience, c'est-à-dire le matin quand on commence à se réveiller ou le soir. Le cerveau fonctionne à différents niveaux, différentes fréquences. Okay, l'état de conscience dans lequel on est, quand on est, on peut dire, éveillé, ça correspond donc aux ondes bêta qui vont à peu près de 14 à 21 cycles par seconde. Et quand on se réveille ou quand on va s'endormir ou alors toutes les heures et demie quand on dort, toutes les heures et demie on rêve, et là on est dans cet état alpha. Qui va de 7 à 14 cycles par seconde. Et dans cet état, il y a une connexion qui se fait avec les deux hémisphères du cerveau, où donc l'hémisphère intuitif féminin, okay, permet donc de fonctionner avec d'implanter, on peut dire, ces nouveaux programmes à l'intérieur. Et donc quand on répète ces phrases à ce niveau-là, et le but, c'est de fonctionner le plus souvent possible dans la journée en niveau alpha. Par exemple, ils ont fait des expériences aux États-Unis où ils avaient demandé à des gens volontaires de s'endormir. Et chaque fois que les gens allaient rentrer dans l'état alpha, ils les réveillaient brusquement. Et ils ont fait ça pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, tous les volontaires avaient développé une psychose. Et donc là, ça a commencé à montrer l'importance de fonctionner dans cet état alpha.
Mais alors, comment se répéter « je vais bien, tout va bien », va-t-on dire ? Dans cette phase alpha, puisqu'on est, entre guillemets, en tant qu'éveillé, dans la phase bêta.
Tu n'es pas endormi, tu n'es pas totalement éveillé. Et c'est d'être conscient dans cet état alpha. Et cet état alpha, tu peux y être à n'importe quel moment de la journée. Okay, quand tu prends une douche, quand tu marches dans la rue, tu peux être en état alpha. C'est d'être capable d'abaisser consciemment les fréquences de ton cerveau. Okay, ce que font depuis des millénaires les yogis quand ils abaissent les battements de leur cœur, etc. Donc chacun est capable de faire ça.
C'est un peu se mettre en méditation.
Oui, oui. Bah, c'est c'est l'état qu'on expérimente dans une méditation ou le guérisseur quand il donne une guérison ou la personne quand il reçoit une guérison. C'est pas un état. Souvent les gens disent oh mais j'ai peur de ça, c'est comme de l'hypnose. Non, l'hypnose c'est différent. Quand on est hypnotisé, on donne le pouvoir à l'hypnotiseur. Et l'hypnose c'est un état qui est déductif, pas inductif. L'hypnose, c'est un état inductif, pas déductif. C'est-à-dire que, par exemple, on va demander à une personne hypnotisée, vous savez quelle heure il est, la personne va dire oui, mais elle ne va pas pouvoir dire quelle heure il est. Okay? Alors que l'état alpha, c'est un état déductif, et tu peux être totalement fonctionnel, et tu vas être capable de créer, dans cet état alpha, des choses beaucoup plus rapidement dans la réalité physique.
D'accord, Bénédicte, quelque chose à rajouter sur ce que vient de nous dire Philippe ?
C'est super, toujours intéressant de l'entendre parler à propos de ça, et il est vraiment un enseignant magnifique, quoi. Au-delà de ça, ta question de départ, c'était à propos de quoi exactement ? De la méthode Kwe et de cette façon que les gens avaient à se persuader de certaines choses. En fait, c'était juste sur un plan très mental. Et ça demande du temps, et c'est vrai que c'est pas très efficace. Et donc, puisque j'ai l'occasion d'exprimer mon point de vue à propos donc de la méthode corps miroir, bien sûr, puis à propos des stages, il se dégage beaucoup d'amour avec tout ça. Et effectivement, les états de conscience sont vraiment différents. C'est pas du mental. On s'en sert, c'est un outil. On le nie pas, surtout pas. On est pas là pour tuer l'ego. Donc on le reconnaît, mais c'est vraiment au-delà de ça, je dirais beaucoup plus profond que ça. Et là, effectivement, la magie de la vie peut se mettre en place.
Oui, c'est comme je viens de l'exprimer Béni, comme je le disais avant, c'est d'aller au-delà du mental. C'est de faire l'expérience directement au niveau du chakra du cœur. Au niveau du chakra du cœur, bon, les aspects de conscience reliés, c'est les perceptions de l'amour d'une personne et la relation avec les autres, la relation avec les personnes proches de son cœur, la famille, les parents, les enfants, les frères et sœurs. Et l'amour inconditionnel, bon, c'est comme un pléonasme parce que l'amour c'est inconditionnel, mais l'amour est inconditionnel et relié au chakra du cœur. Et la plupart des gens n'expérimentent pas ça dans leur vie parce que beaucoup de gens disent « je t'aime », mais il y a toujours un « si » derrière. C'est « je t'aime si tu fais ça » ou « je t'aime donc tu dois faire ça ». Donc il y a toujours de l'amour avec des conditions. Et ça, ce n'est pas le sentiment qui est relié au chakra du cœur. C'est une expérience du plexus solaire. On veut contrôler ou manipuler les autres. Et dans les stages, on apprend aux gens à faire l'expérience des aspects plus profonds de leur conscience et à regarder comment ils se sentent dans cet état, de manière ensuite à être capable d'amener cet état dans leur vie de tous les jours. Parce que le but... de fonctionner comme ça dans sa vie de tous les jours et de se voir comme créateur et d'être capable de créer une vie de... Je pense qu'on est sur cette planète pour être heureux et de vivre d'une manière douce. On n'est pas là pour se faire mal ou faire mal aux autres. Mais pour ça, ça nécessite d'aller au-delà du mental. Okay? Et on a tous la possibilité de le faire.
Alors comment est-ce que, en tant que guérisseur, lorsque quelqu'un vient vous voir, comment est-ce que vous, entre guillemets, guérissez ? Façon de parler, mais comme tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de passes magnétiques ? Est-ce que vous touchez le corps ? Est-ce que c'est directement dans les corps plus ou moins éthériques ?
Ok. Donc, dans les séminaires, on apprend d'abord aux gens à sentir l'énergie. Okay, et chacun est capable de faire ça. Et ensuite, on apprend aux gens à diriger cette énergie avec leur conscience vers eux-mêmes, vers les autres, et à voir cette énergie, ce qu'on appelle l'aura.
Excuse-moi, tu dis sentir l'énergie en montrant tes mains, mais c'est vrai qu'on n'est pas en... Sentir l'énergie dans les mains.
Bah, sauf sur Internet, je
sauf
crois
sur Internet, mais
voit,
sinon, personne n'a vu.
Ok. Et donc, ensuite... Donc il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour la guérison. Un des outils, c'est ce qu'on appelle la lumière blanche. Bon, la lumière blanche a une différente signification pour différentes personnes. Pour certaines personnes, ça peut représenter la somme de toutes les couleurs du spectre lumineux. Okay, pour d'autres personnes, ça peut représenter la partie la plus profonde de la conscience, l'endroit qui est au-delà de tout symptôme. Ça a une signification de pureté. Aussi au niveau métaphysique, spirituel, la lumière blanche est connue comme donnant un sentiment de confiance, de sécurité. Donc pour toutes ces raisons, on peut utiliser la lumière blanche pour créer donc la guérison. Donc le guérisseur peut poser les mains sur la personne, mais c'est pas obligé de toucher une personne pour la guérir. Par exemple, on fait des stages aussi au Koweït, okay, qui est un pays de religion musulmane, et là-bas, en général, donc on ne touche pas pour guérir. Donc que la distance soit 10 cm ou 10 000 km, au niveau de l'énergie, l'espace et le temps n'existent pas. Et donc si une personne, on peut la toucher, donc on pose les mains sur la personne, un léger toucher, okay, juste quand on touche une personne, le sens du toucher est relié au chakra du cœur. Et donc ça donne un sentiment de confiance ou de sécurité à la personne d'être touchée. Et ça peut donner aussi au guérisseur d'impliquer plus de sens pour avoir plus un ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et donc on imagine ni les muscles, ni le sang, ni les os, etc., ni le symptôme, okay, parce que nos pensées c'est de l'énergie, et si on focalise sur un symptôme, on donne plus d'énergie au symptôme. C'est juste d'imaginer la personne comme une coquille vide et de remplir cette coquille vide de lumière blanche. Et en chemin, peut-être dans cette guérison à la lumière blanche, on voit des ombres. Alors qu'est-ce que ça représente, les ombres? Ça représente des tensions dans la conscience et ou dans le corps physique de la personne.
Donc vous avez, lorsque vous remplissez ce corps, vous visualisez, donc vous fermez les yeux quand vous faites le soin?
Oui, en général c'est mieux. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est bien de manière à être totalement impliqué là. Et c'est pas un soin, c'est une guérison. C'est pour ça que c'est important, parce que soin, ça implique une notion de temps. Et on utilise pour ça ce mot guérison, parce que c'est avec l'idée que ça peut se passer tout de suite. Okay. Et c'est pas visualiser, c'est imaginer. La guérison, c'est imaginer une autre personne guérie. En fait, on peut dire que le guérisseur est en train de rêver son rêve à l'intérieur, au niveau le plus profond. Et ce rêve se manifeste ensuite dans la réalité physique, dans la mesure où le guérisseur et l'autre personne s'autorisent à croire que c'est possible. Et quand ces conditions optimales sont réunies, à partir de là, il y a une manifestation de guérison qui peut être immédiate. Et si ça se passe comme ça, ce qui peut dans la société être vu comme un miracle, mais en fait qui correspond seulement au niveau de fonctionnement normal de la conscience, alors le guérisseur doit regarder qu'est-ce qu'il a mis dans sa conscience pour obtenir à nouveau cette manifestation. Parce que le but pour un guérisseur, c'est d'être fonctionnel comme ça à chaque instant, à chaque guérison. Okay. Et donc... on peut utiliser la lumière blanche, on peut aussi travailler avec les chakras. Donc chaque chakra a une couleur particulière. Si on regarde les chakras, ça représente une séquence logique et ordonnée de 7. On travaille avec les 7 chakras principaux. Et donc si on regarde dans le monde extérieur, qu'est-ce qui représente une série logiquement et mathématiquement ordonnée de 7, on peut prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc on peut plaquer les couleurs de l'arc-en-ciel sur chaque chakra, et ça va représenter chaque chakra dans son état d'harmonie. Et donc quand on regarde dans la conscience de l'autre personne, quand on imagine les chakras de l'autre, eh bien s'il y a une autre couleur que celle qui devrait être là, eh bien, ça va dire quelque chose. Donc, il y a un langage particulier des couleurs. Et donc, ensuite, après la guérison, on va dire à la personne, tiens, j'ai vu telle couleur dans tel chakra, et voilà ce que ça signifie. Par exemple, le chakra racine, il est rouge, et le chakra du cœur est vert. Donc, si on voit de la couleur verte dans le rouge, ça voudra dire, tiens, il y a la couleur du chakra du cœur qui est dans le chakra rouge. Donc, ça voudra dire l'amour ou les relations qui seront en considération pour la personne pour se sentir en sécurité. Okay. Et donc ça va donner quelque chose à la personne par rapport à ce qu'elle avait dans sa conscience et à la manière d'être, okay, qui ont permis par exemple de développer un symptôme.
Okay. On va aborder la deuxième page promotionnelle. Okay. Avec nous aujourd'hui, Philippe Hanetel et Bénédicte Odéou. Voici un numéro de téléphone pour pouvoir les joindre. Joindre Bénédicte en tout cas, puisque ce sera son numéro que je vais vous communiquer. Le voici, le 01 47 70 66 87. 01 47 70 66 87. Le site internet www.healer.ch. www.healer.ch. Deux conférences et deux stages à vous proposer. La première de ces conférences aura lieu le vendredi 27 février à 20h. La thématique en sera Vision comme métaphore dans le 11e arrondissement au 39 rue de Charonne. Elle sera suivie d'un stage d'un week-end du 28 février au 1er mars. Ça sera un atelier de la vue, un stage donc d'un week-end. Une autre conférence qui, elle, aura lieu le 3 avril. La thématique en sera corps miroir. Et bien entendu, cette conférence sera suivie d'un stage le 4 et le 5 avril. Stage corps miroir. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone de Bénédicte Odéou, le 01 47 70 66 87. Fin de cette deuxième page promotionnelle. Avec nous donc Bénédicte Odéou et Philippe Antel. Oui, je t'en prie Bénédicte, remets ton casque. On va laisser la possibilité aux auditeurs d'intervenir pour poser des questions. Et je pense qu'il y a de très nombreuses questions à pouvoir poser, notamment sur la symbolique ou la signification des différents symptômes en relation avec les centres d'énergie. Ça pourrait être très parlant pour tous ceux et celles qui nous écoutent. 08 92 23 95 20 pour poser votre question. 08 92 23 95 20. Alors, Philippe, tu nous disais que durant l'acte de guérison, il y avait imposition ou pas, qu'importe. Tu nous parlais de visualiser, en tout cas.
Imaginer. Parce que tu sais la différence entre imaginer. Non, la seule différence, c'est que quand on dit à une personne ou un groupe de personnes, il faut visualiser, 95% disent je sais pas. Mais c'est la même chose que imaginer.
Ah oui, d'accord.
Ok.
Voilà pourquoi je voyais pas la différence. Voilà. Alors, je t'explique. Oui. Dans cette idée de visualiser, avant que je prenne les appels, pourquoi est-ce que tu verrais à certains endroits la couleur des chakras différente de ce qu'elle est réellement?
Ok. Et, bon, le rôle de guérisseur, c'est d'être yang et yin en même temps. Okay, donc, le guérisseur, donc, il va mettre une couleur. Okay. Il est yang. Et ensuite, donc, en même temps, il se laisse recevoir une impression. Okay, de quelle couleur pourrait être là dans le chakra. Donc, dans ce sens-là, il est yin. Okay. Et donc, si la couleur n'est pas juste, eh bien, il va imaginer mettre la bonne couleur à cet endroit.
Okay. Donc ça, c'est dans le cadre de
travail sur les chakras.
Que le guérisseur puisse voir l'aura, ou c'est encore
non,
autre chose?
Non, c'est juste... La guérison, c'est un travail d'imagination. Et les gens ont l'impression que la guérison, c'est quelque chose de mystérieux, très difficile. On enseigne des séminaires pour les enfants à partir de 7 ans. Et les enfants sont très créatifs, ils travaillent avec leur imagination. Et pour eux, c'est très facile d'imaginer qu'est-ce qui pourrait être là. Ok, un adulte qui a une certaine structure mentale, il doit déjà dépasser ça. Et donc, c'est pour ça que pour certains adultes, c'est facile. Et pour d'autres, il y a un peu plus de difficultés où la personne se dit oh, j'ai vu ça mais j'y crois pas, je sais pas, et la personne est en insécurité, elle est en train de... Parce que quand tu es guérisseur, tu dois mettre tous tes problèmes personnels de côté sur l'étagère et être là seulement pour la personne, de manière aussi à être objectif avec ce que tu vois et ne pas projeter tes propres aspects de conscience sur l'autre personne. Et donc fonctionner comme guérisseur, certaines personnes au départ ont une facilité à porter le chapeau, et pour d'autres elles ont besoin de développer leur propre sens de confiance dans leur perception. Parce que les perceptions, c'est quoi? C'est la manière subjective dont tu interprètes toutes les informations qui te viennent. Et donc, c'est d'apprendre à faire confiance à quelque chose que tu ne touches pas, qui n'est pas réel, qui n'est pas physique. Mais tu te rends compte qu'ensuite, eh bien, c'est aussi réel que quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut voir.
Oui, en fait, là où j'étais décontenancé, c'est que tu nous as dit qu'on imaginait le corps, alors vide ou pas, qu'on y mettait la lumière ou autre, ou qu'on imagine les chakras avec les couleurs. Et puis, tu nous disais à un moment donné... par exemple, on voit un peu de vert dans le chakra de racine, qui est rouge, mais puisqu'on on imagine l'imagination, donc si je veux que le chakra rouge soit rouge, il sera rouge. C'est pour ça que je pose la question.
Okay. C'est ce que je te dis, le rôle du guérisseur, c'est d'être en même temps yang et yin. Yang dans le sens où il va mettre une couleur, okay, et yin dans le sens de laisser recevoir quelle impression de couleur est là.
Okay. D'accord, émetteur-récepteur.
Et dans ce sens, si la couleur qu'il a l'impression de recevoir ne lui paraît pas juste, à ce moment-là, donc, il va garder cette impression pour décrypter après, dans le langage des couleurs, et il va mettre la bonne couleur. Et quand on met la bonne couleur, à ce moment-là, donc, on rééquilibre le système énergétique, et on travaille au niveau le plus profond, au niveau du système énergétique, et ensuite, il y a une répercussion dans les deux directions, vers la conscience, où il y a une libération des tensions, et vers le corps physique, où il y a une libération du symptôme ou des tensions qu'il pouvait y avoir là.
D'accord, on va accueillir tout suite Philippe, justement. Philippe, bonsoir. Philippe, allô, Philippe. Philippe une fois, Philippe deux fois, Philippe trois fois. Nous accueillons Laurence. Laurence, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Laurence.
Alors, je vous appelle, j'aurais une question. Donc, merci déjà pour votre émission qui est très intéressante. Je pense avoir bien suivi et compris le système du corps miroir, notamment appliqué à la vue. Et comment expliquez-vous qu'il y ait des personnes qui aient une très bonne vue, même supérieure à la norme, et pour autant qu'il n'ait pas une très grande conscience, enfin en tous les cas c'est ma perception, et réciproquement que des personnes soient aveugles ou handicapées visuelles et possèdent une certaine conscience, justement.
Ok. Le fait qu'une personne ait une bonne vue, ben, ça signifie qu'elle est en équilibre dans sa conscience au niveau donc, du chakra ou des chakras qui sont reliés aux symptômes de vue. Maintenant que cette personne n'est pas une très grande conscience, ça c'est juste une perception qu'on peut avoir. Okay. Et maintenant, une personne qui est aveugle, si on travaille avec l'idée que tout commence dans la conscience, on va dire que la personne ne veut plus voir clair. Donc, c'est de regarder pourquoi une personne ne voudrait plus voir clair. On peut dire qu'elle a plus de joie, elle a une perception d'un futur négatif où il n'y a pas quelque chose qui peut la réjouir dans le futur. Et quand un symptôme se manifeste, on regarde qu'est-ce qui s'est passé au moment où le symptôme a commencé ou a été diagnostiqué médicalement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'expérience, dans la vie de la personne avec lequel elle ne se sentait pas heureuse. Et donc, si c'est un symptôme important, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec lequel la personne ne se sentait vraiment pas bien. Ok.
Oui, en même temps, excusez-moi, j'ai pas vraiment de réponse à ma question parce que là, vraiment, je prends l'exemple de personnes que je connais, moi, qui sont très malvoyantes et qui, au niveau état de conscience, au niveau état d'être, sont plutôt très joyeux et ont justement une conscience comme si elles avaient une vision intérieure, au contraire, comme si elles étaient obligées d'aller voir autrement qu'avec les yeux physiques.
Oui, okay. je vais prendre la parole. Laurence, bonjour, c'est donc Bénédicte.
Oui, bonjour.
Ouais, bonjour. Déjà, tu peux venir à la conférence si tu es sur Paris vendredi prochain, le 27 soirée. On développera tout ça par rapport à la vue. On va dire les centres d'énergie associés, les chakras et les domaines de ta vie qui y sont associés, ça va être avant tout donc le mental, le plexus solaire et tout ce qui touche à la liberté, au pouvoir, je dirais aussi à l'identité. Et par exemple, quand on regarde le Dalai Lama, qui est quand même quelqu'un, je pense qu'il est reconnu pour être quelqu'un d'assez élevé spirituellement.
Hein,
son esprit est clairement ouvert. Et quand tu regardes à ce qu'il vit au niveau justement des domaines de sa vie associés au plexus solaire qui sont liberté, pouvoir, il a carrément été mis à la porte de chez lui, enfin de son pays. La liberté, je ne sais pas comment il doit la ressentir, mais ça ne doit pas être génial non plus. Et au niveau de son propre pouvoir et de pouvoir faire ce qu'il a profondément envie de réaliser, à mon avis, il a des choses à gérer pour lui, en tout cas dans cette vie. Donc le symptôme physique, il va se manifester chez lui, je suppose, à cause de ça. Est-ce que ça t'apporte une réponse ?
Non, pas vraiment.
Ah bon ?
Mais c'est peut-être moi qui... Oh. Parce que vraiment, j'ai dans mon expérience côtoyé des personnes qui ont une vue très très perçante.
Oui.
Et que moi, et je pense que ce n'est pas que ma perception, je ne juge pas des êtres éveillés au niveau de la conscience. Et
je côtoie des gens qui sont très malvoyants
et qui ont une conscience extraordinaire. Donc je comprends votre système du corps miroir et comment vous appliquez la guérison. Mais je ne comprends pas comment, à contrario, on peut dire que...
Mais le fait qu'une personne ait une vue parfaite, ça, je veux juste dire que ce qu'elle fait, ça marche bien pour elle dans sa vie. Et on n'est pas en train de juger la manière d'être de la personne. Okay, peu importe ce que fait la personne, si elle est en bonne santé, ça veut dire que quoi qu'elle fasse, elle est fonctionnelle pour ce quoi elle est là. Et donc c'est juste une question de... Ensuite, quand on regarde cette personne, l'extérieur, on peut dire ouais, cette personne est élevée spirituellement ou pas, mais ça c'est juste une question de jugement personnel. Ok, ça n'a pas à voir avec autre chose.
D'accord.
Voilà.
Okay. Voilà Laurence.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Oui, mais je pense que c'est important parce que effectivement, on a peut-être tous autour de nous, peut-être tout simplement des personnes qui sont très aimables, très gentilles, beaucoup dans l'amour, mais est-ce qu'elles n'ont pas subi, de par leur passé, des séquelles quant à leur liberté, leur pouvoir intérieur ? Et l'exemple du Dalai Lama, moi j'ai trouvé saisissant. C'est vrai qu'il porte des lunettes. Oui. Et quelle est la symbolique ou la représentation de ces lunettes ? Eh bien, je trouve que Bénédicte, tu l'as clairement établi maintenant. Bon.
Et puis, il y a des personnes qui ne connaissent rien du tout la spiritualité, qui sont complètement en dehors de ça et qui sont en bonne santé et qui fonctionnent et qui ça marche pour eux dans leur vie. Donc ça veut dire que quoi qu'ils fassent dans leur conscience, ça marche pour eux. Et ensuite, que la personne soit croyante, pas croyante, fonctionne spirituellement ou pas, peu importe, ça, chacun donc, fait ce qu'il veut par rapport à ça. Un guérisseur, il n'a pas à juger les croyances d'une personne ou la manière dont la personne se comporte dans la vie. Il est simplement là pour regarder si une personne vient le voir, si son système énergétique est en ordre, point final. Okay. Et de même, je voudrais rajouter qu'un guérisseur, il n'a pas le droit de dire à une personne, vous êtes guéri. Okay. Si une personne a été diagnostiquée médicalement avec un symptôme, qu'est-ce qu'il va dire à une personne qu'elle est guérie? Eh bien, c'est un nouveau diagnostic médical. Okay. Un guérisseur, il peut simplement dire à une personne, il n'y a plus de traces d'un symptôme au niveau énergétique. Pour le niveau physique, on n'est pas spécialiste, c'est les médecins qui sont là pour ça.
Et 08 92 23 95 20 pour poser votre question à Philippe et Bénédicte. Nous accueillons Philippe qui est revenu. Philippe,
oui.
Bonjour.
Bonsoir Laurent, bonsoir Philippe et Bénédicte. Bonsoir. Voilà, suite à un diabète de type 1, j'ai eu des problèmes oculaires, j'ai été opéré, j'ai toujours un trouble visuel.
Ok. Bon, le diabète, c'est relié aussi au même chakra que la vue, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, parce que le pancréas, c'est la glande endocrine qui est commandée par le chakra du plexus solaire. Et le diabète commence par une colère réprimée. Ça veut dire au moment où le diabète a été diagnostiqué chez toi, il s'est passé quelque chose dans ta vie avec lequel tu t'es senti en colère et tu t'es pas senti libre d'exprimer cette colère. Et si le diabète évolue, et bien ensuite ça a une manifestation au niveau de la vue. Et également, si c'est un diabète où tu ne pouvais pas prendre de sucre, par exemple, le sucre, si on transpose symboliquement, c'est de la douceur et c'est de l'amour. Et on peut dire que le diabétique, il tient l'amour à distance. Voilà. Donc ça veut dire que, il faut lâcher, par exemple, si le diabète est encore là, il faut lâcher prise sur la colère, accepter ce qui s'est passé et laisser l'amour rentrer vers toi, te laisser ressentir.
Oh bah oui, mais ça, j'ai une démarche dans ce sens depuis longtemps. En fait, j'ai fait une pancréatite.
Ok.
Bon, et après, on s'est aperçu qu'elle était, à moitié calcinée, mais enfin bon, et après, ça m'est tombé sur la vue, et bon,
okay,
opération de Dieu. Ouais.
D'accord, donc c'est de regarder à nouveau les aspects de conscience, liberté d'être toi-même, ton propre pouvoir, okay, et le contrôle. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être relâché à ce niveau-là. Okay, donc c'est de regarder les aspects de ta vie où tu as besoin d'exprimer qui tu es. Okay. Voilà.
Ouais.
C'est ce que ça veut dire au niveau du symptôme que tu dégris. Ça, c'est une vue générale que je peux te donner de l'extérieur. Ensuite, pour aller plus profondément, il faut faire une guérison. Et à partir de là, il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent remonter.
D'accord.
Voilà.
En attendant, j'ai sous les mains des filles aux lunettes.
Oui.
La cassette.
Ah, dis donc, c'est ancien, ça.
Oui.
Oh, super. Ouais, ouais. Puis il y a le livre Voir de mieux en mieux de Martin Brofman aussi, qui est super, qui est magnifique.
Est-ce que je peux. Bon, je vais écouter dans le temps, mais avant d'avoir du diabète, parce que je voulais avoir de bons yeux.
Oui.
Bon, est-ce qu'actuellement, je peux me faire du bien?
Ah bah, de toute façon, même si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal.
Okay, pas faire de mal.
Le pire qui puisse se passer, c'est rien. De toute façon, c'est toujours ce qu'on dit, même au niveau des guérisons. Ok, le pire qui pourrait se passer, c'est rien du tout. Ok. Voilà. Et dans tous les cas, une bonne chose pour rester centré, c'est de faire des méditations et des relaxations le plus souvent possible. Bon, il faut pas être dépendant de quoi que ce soit pour être bien, mais bon, on est aussi dans une société qui bouge tellement et c'est tellement facile. Par exemple quand on habite dans une grande ville d'être bougé par l'énergie des gens autour de nous, que c'est bien de pouvoir faire le plus souvent possible une méditation, une relaxation. Par exemple, si tu fais une méditation le matin sur les chakras par exemple, eh bien ça te montre sur quoi tu peux d'abord, ça te remet en équilibre, en harmonie, et ensuite ça te montre sur quoi tu peux porter l'attention dans ta journée.
Okay. Oui,
voilà Philippe.
Voilà. Bon, merci. Je vais venir la conférence.
Bienvenue.
Merci, bienvenue.
Merci.
Au revoir Philippe, bonne soirée. Et nous accueillons Michel. Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir
Michel.
Je vous
remercie pour votre émission, bien que je ne l'ai pas prise au tout début. Mais j'ai été évidemment intéressée par... j'ai écouté à partir de la myopie. Et comme je suis très très myope, mais myope de naissance, donc je voulais savoir si dans un cas comme celui-ci, vraiment la guérison pouvait être envisagée.
Ok, donc il y a déjà deux possibilités. Quand on dit myope de naissance, c'est de savoir est-ce que ça a vraiment été diagnostiqué au moment de la naissance ou c'est quelques jours plus tard.
Okay. En fait, on m'a raconté Mes parents se sont rendus compte que je n'y voyais pas pour manger la première fois qu'on m'a mettais carrément le nez dans l'assiette. Okay. Bon, ils se sont rendus compte que je n'y voyais rien du tout. Et beaucoup plus tard, mais il y a même assez peu de temps, j'ai appris d'une voyante et puis d'une autre que je serais, enfin, à la naissance, j'aurais fait une chute, je serais tombée tout simplement.
Okay. Et bon, dans tous les cas, un bébé qui est dans le ventre de la mère ou un enfant qui vient de naître, c'est une conscience dans un corps de bébé. Et cette conscience a certaines perceptions du monde extérieur. Et pour un enfant ou un bébé, c'est très limité. Hein. C'est avec les parents, les frères et sœurs. Et donc, si un bébé développe un symptôme, ça veut dire que les perceptions qu'il a choisies à ce moment-là ont créé des tensions dans sa conscience. Et quand ces tensions atteignent une certaine intensité, eh bien, elles peuvent se manifester au niveau physique. Et donc, l'endroit où le symptôme se trouve au niveau physique va refléter les aspects de conscience sur elle. Donc, si tu es devenu myope à la naissance, eh bien, c'est de regarder le chakra du plexus solaire, les aspects contrôle, liberté définition de soi, et également donc le chakra racine qui représente les aspects confiance, sécurité et aussi relation avec la mère. Okay. Ouais. Et donc, peu importe l'ancienneté ou la gravité d'un symptôme, la guérison est possible. Ah. Okay. Quand j'étais myope, ça a été diagnostiqué à l'école quand j'avais 5 ans. On m'a dit, quand mes parents ont demandé pourquoi ça n'a pas été vu avant, le médecin a dit c'est parce que son œil droit il fonctionne très bien et il aurait fallu qu'il ait un problème à l'œil droit pour qu'on se rende compte que l'œil gauche était myope. Mais donc l'âge à laquelle ça s'est développé, je ne le savais pas exactement, et la cause exacte non plus au moment où la guérison s'est passée. Parce qu'on n'est pas obligé de connaître la cause pour guérir. Sinon, c'est comme si on met une obligation. J'ai besoin de connaître la cause pour guérir. Donc, on met quelque chose entre nous et la guérison. D'accord. La cause, on peut la connaître après la guérison, si on veut s'y intéresser. Mais l'important, c'est de guérir. Oui. Okay. Et donc, tout symptôme physique, c'est de l'énergie bloquée. Okay. Parce qu'on peut regarder le corps physique comme de la matière, mais à ce moment-là, on est limité par les lois physiques, la chimie, la physique, la biologie. Ou alors, on peut regarder le corps physique comme une énergie dense qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais de l'énergie. Et on sait qu'on peut travailler avec l'énergie, on peut diriger l'énergie vers nous ou vers les autres et donc rétablir le flux d'énergie qui était bloqué. Et si on est capable de le faire pour un mal de tête, on est capable de le faire pour quoi que ce soit. La seule différence, si une personne dit c'est plus difficile de guérir par exemple une myopie que de guérir un mal de tête, à ce moment-là la personne a des limites dans sa conscience, mais les limites dans la conscience, ça peut être aussi guéri. Ok, voilà.
Voilà, Michel.
Voilà ce que je peux dire.
Merci. Merci beaucoup. Mais je pense que je serai à la conférence du 27 février.
Ok, avec plaisir.
Merci. Enfin,
bonne soirée. Au revoir, Michel.
Au revoir.
Et nous accueillons Georges. Georges, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Georges.
Tous et à chacun. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Voilà, moi, je vous appelle pour une personne âgée qui a 90 ans et qui a un glaucome. Mm-hmm. Est-ce que vous avez obtenu des résultats?
Oui, le glaucome, ça représente une pression, c'est donc une pression dans l'œil. Et donc, ça représente, la personne voit la vie avec pression. Oui. Okay. Et donc, au moment où le glaucome s'est déclaré, cette personne âgée a commencé à voir la vie avec pression. Et donc, elle doit relâcher la pression de manière à ce que le glaucome puisse se libérer. Ça veut dire regarder autour d'elle en lâchant le contrôle, en lâchant la pression. Okay.
Oui, il faut qu'elle s'habitue à lâcher prise. Quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. On est dans une société aussi où on est éduqué d'une certaine manière où on apprend à se contrôler, à ne pas être qui on est réellement. Ouais. Et donc, c'était encore plus vrai pour les anciennes générations. Et donc, si cette personne a 90 ans, elle a été élevée aussi d'une certaine manière et elle a dû se sentir obligée de se comporter d'une certaine manière. Et à partir du moment, quand les tensions dans la conscience atteignent une certaine intensité, il y a une manifestation dans la réalité physique. Et donc, un symptôme, ça montre symboliquement quelque chose de très simple. Quoi. La personne doit relâcher la pression au niveau du glaucome. Quoi.
Mais même à cet âge-là, on peut faire quelque chose.
Oui, oui, oui. Peu importe l'âge ou quoi que ce soit. Il suffit que la personne accepte de changer quelque chose. Maintenant, on pourrait dire une personne qui est âgée, elle va avoir plus de difficultés à nouveau. Mais ça, c'est créer un programme. Okay, oui, c'est ensuite, c'est la personne elle-même qui doit se dire, peu importe l'âge que j'ai envie de changer, je le fais. Okay. Mais ça, le guérisseur peut seulement proposer. Ensuite, c'est la personne qui dispose.
Oui. Voilà. Vous avez travaillé avec Patrick Drouot ?
Je connais Patrick Drouot il y a 20 ans. On faisait des stages au même endroit, près de Paris, avec lui. Voilà.
Bon, eh bien, je vous dis merci.
Je vous remercie de votre appel.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir, au revoir Georges. 08 92 23 95 20. Tout dépend si. Brigitte, bonsoir. Allô. Brigitte une fois. Brigitte deux fois. Brigitte trois fois. Bien. 08 92 23 95 20. Profitez-en si vous avez une question rapidement avant de clore cette émission. 08 92 23 95 20. Ce qui est intéressant dans finalement la conception de la relation, de l'interrelation entre le corps et l'esprit, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Là aussi, on retrouve, et de surcroît, sur l'importance de nos pensées. Puisque nous sommes créateurs de notre vie, on voit la grande responsabilité qui est la nôtre par rapport à ce que l'on pense, dit et fait.
Oui, et en fait, la première chose, ça commence par une perception. Quand tu regardes le monde extérieur, tu choisis une perception. C'est pour ça que différentes personnes regardant une même personne, une même expérience, peuvent avoir des perceptions totalement différentes. Ok, où une personne va avoir la perception que, par exemple, dans le monde actuel, tout va à volo, c'est la crise, ça va mal. Et donc, quand une personne choisit ce type de perception, elle va donc se dessiner un certain chemin. Et une autre personne à côté va choisir une autre perception et à partir de là, elle va créer une autre réalité. Les perceptions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la manière subjective dont une personne interprète toutes les informations qui lui viennent du monde extérieur. D'où l'importance de, dès le départ, de choisir une perception qui nous maintient en harmonie et pas une perception qui va tout de suite nous mettre dans le déséquilibre.
Et nous accueillons Pascal. Pascal, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Bonsoir Pascal.
En fait, j'appelais parce que moi j'ai eu un problème à la thyroïde. Et ça s'est stabilisé assez rapidement. Parce que je me connais un minimum, on va dire. Et j'ai eu des rechutes, des moments de... des hauts et des bas, comme on dit. Mais je voulais juste avoir votre avis sur la thyroïde en particulier, en fait.
Ok, quels symptômes au niveau de la thyroïde, exactement ?
Un syndrome d'hyperthyroïdie.
Hyperthyroïdie, ok. Donc la thyroïde, c'est la glande endocrine qui est reliée au chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, les aspects de conscience, c'est l'expression et le recevoir. C'est aussi, on peut dire, la capacité d'une personne à mettre en place les buts dans sa vie. Et chacun, on a une danse naturelle, une manière de s'exprimer. Et donc, quand une personne a une hyperthyroïdie, on peut dire qu'elle fait, c'est difficile de décrire sans les mouvements, c'est comme si c'est une danse qui est trop rapide pour la personne, et dans ce sens-là, on ne voit pas sa danse naturelle.
En plus, ça m'est arrivé lorsque j'ai eu ma fille, en fait.
Ok, donc c'est beaucoup de speed alors dans ce cas-là. Ok,
et donc
voilà, c'est de retrouver la danse naturelle. Dans le sens contraire, l'hypothyroïdie, c'est la personne s'empêche, elle se retient totalement, elle s'empêche de danser sa danse naturelle. Ok, donc en cas de l'hyperthyroïdie, il faut que tu retrouves ta danse naturelle et à ce moment-là, la guérison prend place. Ok, donc soit ça peut se faire à travers le travail énergétique, ou soit simplement en changeant quelque chose dans ta conscience et ensuite en changeant dans ta manière d'être.
Voilà Pascal.
Ok, merci beaucoup.
Okay,
au revoir,
plaisir,
bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Et donc fin de cette émission. Bien entendu, nous abordons la dernière page promotionnelle de cette dernière. Avec nous ce soir, Philippe Antel, Bénédicte Odéou pour nous parler de la méthode corps-miroir. Méthode de guérison, vous l'aurez bien entendu, compris, j'imagine, si vous avez suivi cette émission depuis le début. Voici un numéro de téléphone, un site internet pour pouvoir joindre Bénédicte et avoir des compléments d'information, bien entendu, via le site internet. Le téléphone, un numéro de fixe, le 01 47 70 66 87. 01 47 70 66 87. Le site internet www.healer.ch www.healer.ch deux conférences suivies de stages à vous communiquer. La première de ces conférences aura lieu le vendredi 27 février à 20h. La thématique en sera « Vision comme métaphore ». Et le lieu, bien entendu, de cette conférence, au 39 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, du côté de Bastille. Cette conférence sera suivie, pour ceux et celles qui le désirent, bien entendu, d'un stage avec comme thématique « Atelier de la vue », un week-end du 28 février au 1er mars. Et enfin, une deuxième conférence, qui celle-ci aura lieu au mois d'avril, le 3 plus exactement, avec comme thématique « Corps miroir ». C'est exactement ce dont nous venons de parler pendant une heure et demie, la relation et l'interrelation de l'esprit, la conscience avec le corps. Cette conférence sera suivie, bien entendu, d'un stage « Corps miroir » le 4 et 5 avril. Je vous rappelle une dernière fois le numéro de téléphone, le 01 47 70 66 87. Fin de cette page promotionnelle. Eh bien, Bénédicte, Philippe, un grand merci pour nous avoir expliqué qui vous êtes, je dirais ça comme ça. Et puis, voilà, c'est aussi une découverte du monde quand finalement on vous écoute, puisqu'on a commencé un peu à faire le chemin de se dire quelqu'un qui oriente ses pensées directement sur « je ne suis pas malade, je dis ce que je ressens, ce que j'exprime, ce que je suis », il n'y a que la paix et l'harmonie qui s'installent dans nos vies. Ouais.
Déjà, merci Laurent de nous avoir accueillis. Et puis, c'est de se remettre dans le siège du conducteur au niveau de son esprit et d'arrêter d'être le copilote et de se laisser guider par les autres. Voilà.
À une prochaine fois.
Merci Laurent.
On se retrouvera au mois de septembre pour ceux et celles d'entre vous qui se demandent.
Tout à fait.
Voilà.
Okay.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.
La suite de nos programmes, bien entendu, avec l'émission qui avait eu lieu hier soir avec Caroline Guidetti et son émission Ressources. Ça sera tout de suite, là, d'ici quelques secondes, sur ici maintenant Point Info, puisque nous quittons la bande FM pour y revenir à 23h avec ce soir, bien entendu, Nicolas Baltic et sa table ronde avec vos interventions pour l'accompagner. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de soirée à notre écoute et on se retrouve bien entendu demain, 17h30 pour un nouveau magazine Santé et Spiritualité. Au revoir. Magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, ici maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet.